Bonjour et bienvenue à tous. Comme chaque mois, Chant contre Chant, émission proposée par l'association Profil sur l'antenne de Fréquence Protestante, vous propose son regard sur le cinéma. Émission qui sera présentée par moi-même, Jean Lot, et je serai bien entouré puisque j'ai à côté de moi Marie-Jeanne Campana. Bonjour Marie-Jeanne.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Françoise Lot, bonjour Françoise.
Bonjour.
Et Jean Wikolski, bonjour Jean.
Bonjour tout le monde.
Alors de quel film allons-nous parler aujourd'hui ? Bon, ne vous inquiétez pas, ou au contraire, n'espérez pas, il ne sera question ici ni de 50 nuances de gris, ni de Jupiter, le destin de l'univers, ni de American Sniper. Ce serait bien inutile entre nous. Nous allons parler, comme d'habitude, des cinéastes qui, obstinément, patiemment, édifient leur œuvre, avec, pour commencer, un film très étrange, très particulier, de l'autrichienne Jelika Haussner, Amour fou. Nous continuerons ensuite avec Phoenix, un film d'un important cinéaste allemand actuel, Christian Petzold. Et avant de passer au coup de cœur habituel, on échangera nos impressions sur Félix Emera, un film du Canadien Maxime Giroux qui nous emmènera dans une communauté juive ultra-orthodoxe de Montréal. Et on va donc commencer avec Amour fou, ce film totalement inclassable de Jelika Haussner. Alors, qui est Jelika Haussner ? Elle est belle, elle est blonde, elle est née à Vienne, elle a 42 ans. Elle commence par faire des études de psychologie, puis entre à la Film Academy de Vienne, où elle a pour professeur un certain Michael Haneke, avec qui elle travaillera comme script. Elle est maintenant déjà une cinéaste confirmée. Amour fou, c'est son 5e long métrage. Son film le plus connu en France est En ce jour Lourdes, sorti en 2011, où Sylvie Testu interprétait de façon assez extraordinaire le rôle d'une malade atteinte de sclérose en plaques et cherchant le miracle. Alors, le domaine du miracle exclut le rationnel. C'est déjà celui de la folie, un peu, d'une certaine façon. Alors, est-ce que Jelika Haussner réitère aujourd'hui avec Amour fou, Françoise ?
C'est exactement la question qu'on peut se poser quand la salle se rallume à la fin du film. Parce que ce titre, qui est follement romantique, Amour fou, semblait annoncer une passion amoureuse exacerbée, qu'il n'en est rien, le film est glacial. Ni pathos, ni passion, c'est l'histoire d'un double suicide et on se demande bien où est l'amour. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, d'un drame qui a eu lieu il y a maintenant 200 ans en Allemagne, en 1811 très exactement. Heinrich von Kleist, 34 ans, est un jeune dramaturge et nouvelliste allemand parmi les plus talentueux. Il se suicide au bord d'un lac à Berlin, le Wannsee. Mais voilà, et c'est là le sujet du film, il a demandé à une jeune femme, Henriette Vogel, l'épouse de l'un de ses amis, de l'accompagner dans cette mort, bref, de se suicider avec lui.
Et alors ?
Alors, il se rend dans la forêt qui borde le petit lac, on est en novembre, une légère couche de neige recouvre les feuilles mortes, et c'est sur ce linceul improvisé qu'il la tue d'un coup de pistolet, et lui se tue juste après.
On est en pleine folie ou en plein romantisme ?
Les deux. S'il y a folie, elle est glaciale face à la caméra de Jelika Haussner, et le romantisme consisterait alors à dire non à cette société-là. Le film nous plonge en effet, et sans précaution aucune, dans la société prussienne de Berlin. Au début du 19e siècle, l'appartement des Vogel est un appartement bourgeois, avec des meubles austères, tout y est froidement géométrique, y compris le sol écarlé est noir et blanc, exactement comme un échiquier, et on a l'impression que les habitants s'y déplacent selon une trajectoire fixée à l'avance. Les femmes ont des coiffures compliquées, elles sont corsetées dans des robes aux plissés savants, les hommes portent la redingote, le chapeau à large bord, tout est codifié, tout est implacable. Et voilà le jeune Heinrich, invité aux soirées mondaines de musique de chambre chez les Vogel. Heinrich, le regard absent, qui se sent mais totalement étranger à ce monde-là. Et on entend poser cette question incongrue à son hôtesse, Henriette Vogel, mariée, mère d'une fillette de 12 ans, et lui dit « Möchten Sie mit mir sterben ?»« Voudriez-vous bien mourir ?» Avec moi.
C'est complètement absurde.
Complètement. Il semblerait justement que ce soit l'absurde de la situation qui ait fasciné Jelika Haussner. À aucun moment, elle ne cherche à faire du tragique ou du romantique. Et elle a choisi un autre angle. Et c'est ce qui m'a plu, moi, dans ce film complètement décalé. C'est justement le décalé, l'inattendu, que j'ai aimé. Tout le contraire de ce qui pourrait être dit d'un double suicide par amour. Clyce, en effet, avait déjà demandé à plusieurs personnes si elle voulait bien mourir avec lui. Il avait demandé à son meilleur ami. Il avait demandé à sa chère cousine Marie, dont il était follement amoureux. Et puis, il avait que des noms. Personne ne voulait. Ah, finalement, il a essayé auprès d'Henriette, qui a d'abord refusé. Puis, se croyant atteinte d'une maladie incurable, elle a fini par accéder à cette demande. Henriette, donc, il faut bien le dire, fait figure de deuxième choix. Quant à une véritable relation amoureuse entre Heinrich et Henriette, ça n'apparaît jamais dans le film.
Et ta conclusion après tout ça?
En conclusion, en fait, j'ai beaucoup apprécié le film. Sa beauté formelle, en particulier les plans ciselés, la beauté de la photographie, la beauté des couleurs, tout concourt à créer une atmosphère très prenante. Et je me suis régalée à écouter cette langue allemande du 19e siècle, celle de Kleist, très précisément. Enfin, à mes yeux, c'est très beau.
Oui, c'est très beau, peut-être un peu trop. Enfin, Jean, toi, comment tu as réagi à cette impression de beauté formelle, glacée, statique, où il y a sans doute beaucoup d'atmosphère, mais qui peut sembler peut-être un petit peu ennuyeux?
Eh bien, je partage assez bien l'analyse de Françoise, mais pas les conclusions. Parce que effectivement, c'est un très beau film, c'est un très beau spectacle. On se croirait vraiment en Allemagne du 19e siècle. Tout le monde est impeccable, les valets de pied, ils sont formidables, il manque aucun bouton de guêtre. C'est un spectacle vraiment vraiment léché. Mais moi, ça m'a laissé froid, contrairement à Françoise qui a on ne doit pas avoir les mêmes atomes, donc j'ai pas réagi à ce film, je l'ai pas aimé.
Tu t'es ennuyé.
Ouais.
Tu t'es ennuyé un peu, ouais. Tu regardais ta montre. Ouais. Mais je comprends qu'on puisse s'ennuyer.
On peut avoir une impression de froideur tout en ayant en même temps une impression de chaleur parce que le film est beau. Marie-Jeanne, est-ce que
moi je partage la conclusion de Françoise. J'ai finalement, après un moment d'hésitation, parce qu'on est un peu assommé au départ
par
ce film, quand on en sort, et puis finalement j'ai beaucoup aimé parce que j'ai trouvé que, bien sûr, on pourrait dire qu'il y a une stérilité assommante des cadres, des plans fixes, de la beauté formelle, les images sont absolument impeccables. Chaque image, enfin chaque plan est un tableau, extraordinaire. Mais je crois qu'il faut voir ce film au second degré. Il y a une ironie, mais d'une férocité, mais époustouflante. Enfin, je crois que Asner s'est beaucoup impliqué dans la critique de cette société, et elle nous montre sous des apparences lisses, belles. Il y a d'ailleurs un déphasage entre la beauté linguistique et parfaite et le contenu même de la demande. Enfin, d'ailleurs, dans la salle, les gens riaient, on rit à plusieurs reprises, parce qu'il y a une forme un sarcasme extrêmement poussé dans ce film, et moi qui m'a enchanté.
Oui. Le titre, déjà, ça fait rire. Oui. Quand on sort, on dit amour fou.
Et puis, il y a un côté absurde qui est drôle. Hein. Oui. Ce type qui dit, je ne cherche pas une femme pour la vie, mais pour la mort, c'est à la fois tragique et ça fait rire.
Ça fait rire bizarrement.
Ça fait rire, mais est-ce que vous avez l'impression que ce personnage de Heinrich, ce jeune homme du 19e siècle, est totalement... hors préoccupation, hors sujet, dans un autre temps, est-ce qu'il vous concerne un peu ou pas du tout?
Il est très littéraire, surtout essentiellement littéraire. Est-ce que ça peut exister dans la réalité?
Voilà, c'est la question. Oui. Est-ce que ça peut
ça
exister dans
difficile.
La réalité?
Mais pour moi, c'était un des intérêts du film, justement, c'est de me transporter complètement ailleurs.
Voilà.
J'ai rarement vu un film aussi exotique, entre guillemets.
Oui.
Où c'était une autre planète. Les gens qui sont là sont davantage une autre planète que les personnages de la Guerre des Étoiles, par exemple.
Ouais.
Je partage pas votre position. Pas du tout. Pas du tout, parce que Heinrich qui se suicide, soi-disant par amour, on n'en sait rien. Moi, j'ai l'impression que Heinrich, il est pris par ce qu'on appelait le mal du siècle, ce qu'on appelait le mal de vivre. Et que dans le film, vous avez une allusion très légère aux maladies de l'âme. Le mari dit à Henriette, à sa jeune femme, tu sais, en France, il existe un médecin qui se préoccupe des maladies de l'âme. Et je pense qu'il fait allusion à Charcot, qui est donc le professeur de Freud, qui n'était pas encore là. Et je pense à ce fameux médecin qui vient lui faire du magnétisme, de la radiesthésie, comme Mesmer, ou c'est peut-être Mesmer lui-même d'ailleurs. Et je me demande si dans Heinrich, moi je l'ai ressenti comme ça, il n'y a pas quelque chose sous cette forme romantique de ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression. On a parlé de la mélancolie, Freud parlait de la mélancolie, et c'était bien une forme de dépression. On a parlé au début du 20e siècle de neurasthénie, maladie. Aujourd'hui, on parle de dépression. Est-ce que Heinrich n'est pas quelqu'un qui porte la mort en lui, qui n'a plus envie de vivre?
Il y a beaucoup de ça. Mais enfin, on sent là que Jessica Hausner a commencé par faire des études de psychologie très poussées et que son intérêt pour ce thème-là ressort terriblement.
Mais oui, la dépression est universelle, mais la manière dont elle s'exprime ici est d'un autre temps.
Oui,
j'ai raison, c'est complètement...
Oui, c'est d'un autre temps, mais c'est, moi, c'est complètement moi, c'est complètement irréel. Ça reste complètement irréel.
Oui. Enfin, pour moi, je suis d'accord avec toi que c'est entièrement irréel, mais de façon différente. D'une part, je ressens ça comme une planète, je dis comme une planète, comme une autre planète. Hein. Et par ailleurs, je me suis dit que c'était peut-être, la seconde hypothèse que je fais, que c'est un peu une façon que Jessica Hausner décrit de manière subjective le monde tel que le voit Kleist. Ce personnage dépressif, mélancolique, fou, qui est attiré par la mort, qui est fasciné par la mort, et que c'est un peu le regard de Kleist que l'on a tout au long du film.
Tout à fait.
Oui. C'est vu par Kleist. Je pense que c'est une façon de mettre loin ce qui peut être près de nous, et que près de nous, il existe des gens qui sont habités par ce désir de mourir. On appelait ça la Sehnsucht chez les Allemands et romantiques. C'est un désir d'infini que rien ne peut assouvir.
Oui,
c'est ça qui lui arrive.
On n'est quand même pas du tout dans la mort romantique. La mort romantique, j'ai l'impression que le romantique, au contraire, la mort est quelque chose qui exalte la vie, qui a plus d'importance parce que c'est fragile et que ça va disparaître. Oui. Alors que là, c'est une fascination, c'est quelqu'un qui refuse la vie.
Mais oui, mais même pour accentuer sur le ridicule, sa mort même est ridicule. Son pistolet qui marche s'enraye.
qui s'enraye.
Oui, enfin, tout à fait.
C'est grotesque.
Oui, il y a un moment où, alors qu'il se donne la mort, on rit.
Oui, voilà.
On rit parce que la fois de suite, le pistolet, ça marche pas.
Ça marche pas, voilà, ouais.
Il est obligé de changer de pistolet, enfin.
Donc, on va rester sur ce sourire et passer au film suivant, et là, on va d'ailleurs rester dans le cinéma, sinon allemand, on va rester dans le cinéma allemand. Puisque, si Jessica Hausner est autrichienne, Christian Pitzold, lui, auteur de Phoenix, est un auteur allemand, beaucoup plus connu d'ailleurs que Jessica. Il est plus âgé déjà, il est né en 60, il a réalisé une bonne dizaine de films, tant TV que cinéma. Le film qui le fera connaître est en Contrôle d'identité en 2000. Film qui fera de lui un des chefs de file de ce qu'on a appelé l'école de Berlin. Appellation d'ailleurs qui est purement journalistique, car il n'y a jamais eu l'école de Berlin. Il y a simplement eu des cinéastes allemands contemporains qui vivaient à Berlin et qui avaient une même exigence de qualité. Bon, il y a chez Christian Petzold une volonté de rattacher l'Allemagne d'aujourd'hui à celle d'hier. C'était déjà le cas avec son film précédent, Barbara, qui a beaucoup de succès, qui a déjà été tourné avec Nina Hoss et qui se déroulait en Allemagne de l'Est avant la chute du mur. Il me semble qu'on peut dire sans se tromper que Phoenix est de nouveau une tentative de relier la Bundesrepublik à son passé.
Oui, absolument. Parce que l'action du film se situe juste après la capitulation de l'Allemagne nazie à Berlin. C'est une période de l'histoire rarement représentée au cinéma. À ma connaissance, je ne connais que Allemagne, année zéro, de l'Italien Roberto Rossellini et La Scandaleuse de Berlin de l'Américain Billy Wilder. Ici, par contre, c'est un Allemand qui réalise le film, ce qui donne encore plus de force à son propos. L'héroïne Nelly est une juive allemande arrêtée en octobre 1944. Elle revient d'Auschwitz où elle a survécu sous un tas de cadavres après avoir reçu une balle dans la tête. Son ami, Léna, lui apprend que la fortune de sa famille va lui être restituée. Le plus grand désir de Nelly est de retrouver Johnny, son mari, bien que son ami, Léna, pense que c'est lui qui l'a dénoncé aux nazis. Le thème principal du film est la reconstruction de la personnalité après le traumatisme des camps, de la renaissance de cette femme. Grâce à la chirurgie, Nelly retrouvera rapidement un visage, même si ce n'est pas celui d'avant, mais sa reconstruction morale sera bien plus problématique.
Oui, on comprend bien que c'est pour cela que le film s'appelle Phénix.
Oui, bien sûr, ça s'appelle Phénix parce que le Phénix, c'est l'oiseau mythique des anciens Grecs qui renaissait de ses cendres. Et c'est bien l'idée du film, la Renaissance. De plus, Phénix est le nom du bar pour soldats en secteur américain où finalement Nelly retrouvera Johnny, qui, de pianiste avant la guerre, est devenu un homme de service, aigri et méchant. Johnny, qui croit sa femme morte et ne la reconnaît pas dans l'étrangère qu'il a devant lui, lui propose de prendre l'identité de cette dernière pour mettre la main sur son héritage. Elle accepte, espérant ainsi le reconquérir. L'interprétation de Nina Hoss, l'actrice fétiche du réalisateur, est alors particulièrement subtile puisqu'elle joue à la fois la vraie et la fausse Nelly. Johnny va l'obliger à se mettre dans la peau de l'ancienne. à imiter sa démarche, ses attitudes, son écriture, et finalement à simuler un autre retour des camps. Les images de l'arrivée d'un train de Pologne nous frappent particulièrement. La phrase prédisant la rescapée que ceux qui vont l'accueillir ne lui demanderont rien est terrible, car c'est ce qui s'est réellement passé après la guerre, les rescapés des camps n'ayant pas pu raconter ce qu'ils avaient dû subir, car on ne voulait pas les croire. Le scénario, d'après un roman français de 1961, est bien mené, il nous tient en haleine, avec un face-à-face pathétique entre Nelly amoureuse, il croit toujours que Johnny va la reconnaître, et ce dernier indifférent et aveuglé par la rapacité et le déni du passé.
Alors là, on est dans un déni du passé, mais auquel va s'opposer le désir de savoir ce qui s'est vraiment arrivé.
Effectivement, tu as raison, l'amour déçu de Nelly laisse peu de place à sa volonté de connaître la vérité des faits qui ont conduit à son arrestation, afin d'en finir définitivement avec son passé. La dernière partie est particulièrement forte, avec le retour simulé de Nelly et son accueil par d'anciens amis dont la joie sonne faux, mais avec cette interprétation émouvante d'une chanson d'amour venue de son passé, et qui clôt le film en un glorieux point d'orgue. Christian Petzold se penche avec beaucoup de brio et de délicatesse sur les extraordinaires efforts qu'ont dû faire les rescapés de l'Holocauste pour survivre, avec parfois des échecs qui se concluent par un suicide. Pour cela, il a une direction d'artiste fine et précise. Et à côté d'Ina Hoss, qui joue très physiquement, il faut bien sûr saluer Ronald Zerfeld, le mari de Johnny, qui joue à la perfection son rôle de brute et de lâche.
Oui, mais Jean, j'ai le sentiment que tu as vraiment beaucoup été sensible à ce film, très sensible à ce film. Toi, Françoise, est-ce que tu as été aussi convaincue que Jean par la renaissance de ce phénix?
Moi, quand je suis sortie de la salle, je me suis dit, wow, j'étais très déçue, parce que j'avais bien aimé Barbara. Et je me suis dit, je ne crois pas à un scénario. Il m'a semblé que c'était assez invraisemblable, très alambiqué, trop romanesque. Et je suis sortie en me disant, je suis drôlement déçue par le film. Et puis, en y réfléchissant, et en parlant avec d'autres, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a une lecture au deuxième degré qui est très intéressante, mais peut-être que cette lecture au deuxième degré, sur la reconstruction, sur le pardon, sur le déni, est noyée par une réalisation trop réaliste. J'ai pas beaucoup aimé cette reconstitution des ruines de Berlin qu'on a déjà vu beaucoup. Elle m'a semblé trop réaliste. Il m'a semblé que le récit romanesque prenait trop de place par rapport à la lecture au deuxième degré. Mais peut-être que j'ai trop tendance à privilégier le deuxième degré aussi.
Toi, Marie-Jeanne, est-ce que tu privilégies le deuxième degré ou que penses-tu du premier degré?
Alors, moi, j'ai bien aimé ce film dans l'ensemble, hein, mais j'ai quand même, et je rejoins là-dessus François, j'ai quand même un gros bémol. J'ai éprouvé, en voyant ce film, un fond d'incrédulité quand même. Comment imaginer l'aveuglement de Johnny, qui, vivant à ses côtés, parce qu'il l'héberge pendant un certain temps, ne la reconnaît toujours pas, même si on veut croire à cette trame dramatique qui, tu as raison, est un peu tarabiscotée et puis est trop imprégnée de vertigo pour donner sa propre ampleur dramatique. Mais que Nelly, par ailleurs, refuse de croire à l'intérêt qu'a Johnny pour son argent, car il le lui dit très nettement au départ, et Lane et son ami le lui dit aussi, ça c'est plus invraisemblable. Enfin, je trouvais que même dans les circonstances, c'est quand même...
Oui, t'as raison, mais enfin, il faut voir que ce sont des personnages, c'est quelques mois après la guerre, ce sont des personnages extrêmement choqués par ce qui s'est passé. D'abord, Nelly, parce qu'elle sort d'Auschwitz, ce qui ne devait pas être une sinécure, et Johnny, qui est complètement défoutu, démoralisé, et qui ne pense plus qu'à récupérer du fric, quoi.
Oui, je sais pas, moi, je suis très partagé sur ce film. Je pense que c'est un film qui construit sur deux idées assez extraordinaires. Pour moi, ça fait la valeur du film. La première, c'est celle du retour totalement inattendu de quelqu'un qu'on ne reconnaît pas, bien qu'il soit identique à lui-même, parce qu'au fond, on pense qu'il ne peut pas être là. Alors là, il y a quelque chose, je trouve, d'incompréhensible, d'incroyable, et en même temps de profondément vrai. Enfin, c'est au fond exactement la situation des disciples au moment où le Christ apparaît à Emmaüs, et on ne le reconnaît que plus tard, grâce
un geste.
Grâce à des gestes, de la même façon qu'on ne reconnaîtra finalement la femme qu'avec, en raison de la chanson et des...
Et des tatouages sur son bras.
Et puis l'autre idée assez extraordinaire, c'est que Johnny veut rendre ce fantôme identique à ce qu'elle était avant qu'il ne la dénonce. Identique tout en n'étant pas la même. Il y a une version du thème du double assez fascinante, le double étant cette fois une superposition entre l'original et sa copie conforme, qui en fait est l'original, mais doit passer pour la copie. Et je trouve ça, c'est extraordinaire. Mais par contre, en dehors de ces deux aspects-là que je trouve extraordinaire, j'étais très gêné par la non-vraisemblance du film. Oui. J'ai cru parce que
je pense que le traumatisme a été tel dans ce pays que les gens n'avaient plus leur tête. D'ailleurs, il y en a qu'un qui la reconnaît. C'est la femme de l'aubergiste
au bord du lac,
devant lequel était la péniche dans laquelle elle était
cachée.
C'est la seule qui reconnaît. Alors que le mari ne veut même pas la voir. Il veut même pas essayer de la voir. Donc je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce film, justement, c'est de décrire comment des gens peuvent revivre ou vivre avec cette espèce d'énorme chose qui leur est tombée sur la tête.
Moi, je trouve qu'il n'a pas vraiment réussi à faire passer ce qu'on ne peut pas croire. Quoi.
Oui, tout à fait d'accord.
Oui. Ben moi, c'est ce qui m'a ému, justement.
Je trouvais qu'il manquait quelque chose, comme il y a dans les yeux sans visage de Franju, ou bien ce qu'il y a effectivement, tu sais, de Vertigo. La magie du cinéma fait passer le truc, et là, je trouve que personnellement, ça ne fait pas.
Parce qu'il n'y a pas trop de réalisme dans la reconstitution historique des ruines de Berlin. Je me demande si ce trop de réalisme n'est pas. Ne permet pas finalement à ce qui est important dans le film, à savoir le déni, et également la possibilité de repartir de zéro. Mais le déni, il est également chez Nelly, parce que elle n'arrive pas à croire que son mari a pu être capable d'une telle trahison. C'est pour ça que peut-être ça dure si longtemps et que nous, spectateurs, on trouve que c'est un peu trop, je sais pas.
Oui, c'est un peu trop, d'autant qu'il lui dit carrément qu'il veut l'argent au départ, quand il la rencontre.
Oui, en tout cas, c'est vrai un film qu'il faut vraiment la peine d'aller le voir parce que c'est un film très, très riche, qu'on y adhère totalement ou pas. Je trouve que vraiment, il faut aller le voir, ce film.
Tout à fait.
On va peut-être maintenant faire une petite pause musicale avant de reprendre avec notre troisième film. Nous allons reprendre avec Félix et Mera, film du réalisateur québécois Maxime Giroux, et qui la preuve que le cinéma de la belle province ne se réduit pas à Xavier Dolan. D'ailleurs, Maxime Giroux a même réussi à tailler des croupières à son glorieux compatriote, puisque son film a coiffé Momie lors du sprint final au Festival Toronto.
Ouais.
Il faut dire que Félix et Mera, troisième film de Maxime Giroux, après Demain en 2008 et Joe pour Jonathan en 2010, est une œuvre sans prétention, original, aussi sympathique à regarder que l'accent québécois à entendre, même si son sujet, dont l'action se déroule dans une communauté hassidique de Montréal, n'est pas à rappeler Kadosh la Mosguitaille. Mais alors que Kadosh faisait froid dans le dos, moi je trouve que Félix Mera fait plutôt chaud au cœur. Il y a dans ce film une façon de faire un pied de nez au rigorisme des ultra-religieux qui est tout à fait réjouissante. Mais Marianne, enfin, je me rends compte que j'en parle là comme une comédie. Est-ce que tu en pleurais ce mot ?
Peut-être, oui, dans la mesure où on trouve dans ce film tous les ingrédients de la mauvaise comédie. Alors, il y a la bonne mère de famille, l'adultère, l'amour impossible et la balade en gondole à Venise, enfin, c'est dire. Et pourtant, je crois que là, Maxime Giroux a évité tous les pièges du genre et nous présente une œuvre qui est d'une pudeur, d'une délicatesse, d'une subtilité qui vraiment nous la rend attachante. Mera vit entre sa petite fille et son mari dans le cadre de la communauté hassidique juive à Montréal, avec ses rituels, sa rigidité et son terrible enfermement. Et sans complaisance d'ailleurs ni caricature, Maxime Giroux nous montre la vie quotidienne de cette femme qui n'existe qu'en tant que mère reproductrice auprès d'un mari très religieux, peu sympathique et qui semble beaucoup plus préoccupé par les règles de sa religion que par l'épanouissement de ce qui l'entoure, il faut le dire. Et de fait, Meira étouffe littéralement dans ce milieu. Et là, avec une lenteur délicate qui, je le conçois, pourrait agacer certains spectateurs, le réalisateur nous montre l'éclosion progressive de cette fleur. Sous un masque de soumission, les signes de sa révolte nous apparaissent progressivement.
Et ils sont manifestes. Hein. Ah, oui. Là, on peut pas dire que Maxime Giroux n'enfonce pas soigneusement le clou. Hein.
Oui, mais non. Mais on découvre qu'elle prend la pilule en cachette, toujours en cachette, elle écoute de la musique, elle dessine. Et ses regards et ses soupirs nous en disent long sur son état d'âme. Et là, je dois dire, il faut saluer l'excellente interprétation de Hadas Yaron, qui est tout en nuances et subtilités et qui est tellement juste dans son personnage. Et puis, en promenant sa fille dans le quartier, ce quartier de multiculturel de Mainland à Montréal, elle rencontre Félix, qui est incarné par Martin Dubreuil, un quadragénaire qui vit sans aucune contrainte, héritier désœuvré, qui ne pense qu'à dilapider son héritage et, entre nous, son grande consistance. Alors les débuts sont difficiles, elle est tellement engluée dans les carcans de son milieu que malgré sa volonté secrète, elle fuit. Et puis arrive ce qu'on n'aurait pas pu imaginer dans la vraie vie. Et toujours avec la même pudeur, la même subtilité, le même tact, le réalisateur nous fait vivre cette relation. Alors effectivement, on n'est pas avec Xavier Dolan, il n'y a pas d'envolée lyrique, il n'y a pas de grande déclaration, pas de sentimentalisme, mais dans cette subtile lumière diaphane de l'hiver canadien, on les voit dans de longues promenades romantiques, et le grand moment d'intimité entre eux consiste pour lui à lui enlever sa perruque, c'est tout un symbole.
Oui, enfin, même si c'est son titre, le film ne se limite pas à une relation amoureuse entre Félix et Meira.
Bien sûr, ce n'est pas qu'une simple histoire d'amour et le film pose bien plus de questions. D'abord, le problème du communautarisme et de l'intégrisme religieux. Dans ce carcan terrible de la religion, les interdits dominent. Et sans complaisance, là encore, ni caricature, Maxime Giroux nous montre les travers et les excès de ce milieu, d'ailleurs, tout en les nuançant. Car à la fin du film, ce mari, qui était si antipathique, devient humain dans sa douleur d'avoir perdu sa femme et se met à écouter de la musique pour essayer de la comprendre. Ensuite, la position de la femme, évidemment, dans ces milieux, qui est confinée à un rôle domestique que la plupart des femmes qui entourent Meira, d'ailleurs, acceptent et véhiculent largement. Enfin et surtout, la difficulté qu'il y a à construire sur des ruines. Après des hésitations très compréhensibles, Meira franchit le pas. Mais d'abord, elle ne quitte pas sa perruque, ce qui est symptomatique. Ensuite, cette promenade amoureuse dans une gondole vénitienne est tout bonnement sinistre. Un minimum de mots échangés, pratiquement pas de sourire, et on ne peut pas s'empêcher de se dire que l'avenir de ces deux-là est bien sombre, ce qui est d'ailleurs symbolisé par la dernière image du film, oui. Où l'on voit la proue de la gondole s'enfoncer dans la nuit. C'est terrible.
Et l'eau est noire.
Ouais. Et l'eau est noire. Oui, c'est sûr que c'est une fin... Vraiment assez sombre pour une comédie. Oui. Jean, toi, est-ce que tu partages le point de vue de Marie-Jeanne sur ce film ?
Oui, en partie. En partie parce que c'est un bon sujet, s'attaquer au fondamentalisme de toute religion. Là, c'est des fondamentalismes juifs. C'est toujours très bien. On a cité Kadosh tout à l'heure, c'est bien sûr. Il y a eu My Father, My Lord aussi, qui était un peu dans le même style.
Oui. Donc toujours terrible,
absolument. Encore pire. Alors c'est un peu dommage qu'avec un bon sujet et de bons sentiments, moi je trouve que c'est pas un film spécialement réussi, parce que on croit pas à ces personnages. Et tu parles de l'éclosion d'une fleur, mais c'est une fleur qui d'une grande tristesse, finalement. Elle est jamais bien. Alors, il y a un seul personnage sympathique, finalement, c'est le mari.
Sympathique.
Sympathique parce qu'à la fin, il devient un vrai homme. C'est le seul qui a des vrais sentiments. Alors que tous les autres, lui, Félix, il s'en fout, finalement.
Tu crois qu'il n'est pas amoureux, Félix, toi ?
Non, il n'est pas amoureux.
Je suis pas d'accord avec toi. Je crois que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment capable d'être profondément amoureux.
En tout cas, c'est pas l'amour fou, hein, dirait Yassine Arasner. On n'est pas dans l'amour fou.
Non, ouais. il la prend comme il prendrait une autre. Voilà, elle passe.
Il a plein de délicatesse. Je sais pas. Pas l'amour fou, en tout cas.
Et Meira... elle est triste, elle est d'une tristesse,
la pauvre femme. On peut la comprendre.
Elle est malheureuse comme les pierres.
C'est un film profondément triste.
Mais oui, bien sûr.
Tu as prononcé le mot de sinistre. C'est un film profondément triste. Je sais pas si vous vous souvenez, la première séquence du film, c'est Shabbat. C'est la soirée Shabbat donc, dans ce couple, ils ont des amis. Et, les juifs hassidiques sont plutôt des juifs joyeux. Ils dansent et ils chantent beaucoup. Et on voit, Mera avec sa perruque, comme les autres femmes, et ce ruban blanc qui retient les cheveux. Mmh. Et elle est profondément triste. Elle ne participe pas, elle est ailleurs. Et elle entend ces chants tonitruants. La bande son devient tonitruante. Je crois qu'elle peut plus supporter. Et à un moment, je me suis remarqué, mais la coupe de vin, sur laquelle les hommes ont fait la bénédiction, la coupe de vin, se renverse et il y a du vin qui se répand tout autour comme du sang. On se dit, ouh là là, ça va mal se passer.
Et ça se passe mal.
C'est une des choses que je trouve intéressante dans ce film, justement, cette coexistence entre des détails extrêmement précis, pointus, comme ce verre renversé, comme le piège de souris dans lequel...
Ah oui, le piège.
Et puis en même temps...
C'est elle la souris, hein.
Elle essaie de
faire le piège.
Et comme disait Jean, effectivement, c'est un côté sympathique de son mari, comme s'il se rendait compte que sa femme était malheureuse, parce que la souris, il la laisse partir quand il la trouve dans le placard, comme s'il assimilait cette souris à sa femme et qu'il se dit finalement, elle a raison de partir.
Il dit même, la vie est injuste. Il s'adresse à la petite souris, tu ne trouves pas, la vie est injuste. Hein.
Et ce qui est bien, c'est le seul personnage finalement qui évolue d'une façon positive. Alors tous les autres s'enfoncent dans leur truc...
Oui, mais en même temps, l'acteur qui joue Shulem, donc le mari, lui, il a été un juif hassidique. Il est sorti de sa communauté. Et il dit dans une interview que j'ai pu entendre, il dit qu'un vrai juif hassidique jamais ne réagirait comme dans le film, à savoir, il ne laisserait jamais partir sa femme avec un amant.
Ouais. Elle part sans lui demander, quand même, hein.
Mais c'est ce que je voulais dire. Moi, c'est par exemple de Mera que je trouvais intéressant, parce qu'elle est d'une duplicité, cette fille, extraordinaire, dès le départ.
Mais écoutez, c'est normal, quand on est... quand on est dans ce milieu-là, enfermé, dans ce carcan qu'on ne peut pas s'exprimer, que tout vous est imposé, où vous partez, ce qu'elle a fait, mais aussi pour partir, il faut un minimum de duplicité. Enfin, je crois que c'est...
Voilà,
c'est une réaction normale de survie.
Elle dit à son mari, oh, regarde comme ta fille te ressemble. Pour l'endormir, pour l'endormir.
Elle lui tend le bébé.
Est-ce qu'on n'a jamais fait, nous, dans nos vies, quelque chose comme ça?
Non, jamais.
Bien sûr. Non, mais c'est normal. Enfin, je trouve au contraire que c'est très vrai et que ça montre l'humanité de Marie. De Meira.
Mais je trouve, ça montre la duplicité de l'humanité.
Quand on enferme l'humanité elle sort de diverses manières.
On peut parler de duplicité, on peut parler également, peut-être, parce que c'est présent dans le film, de ne pas parler la même langue, de ne pas parler la langue de l'autre.
Ah, ça, c'est extraordinaire.
C'est intéressant. Oui. Elle parle le yiddish dans sa communauté. Elle parle anglais dans la vie de tous les jours. On est au Canada. Elle parle
français.
Et puis, il y a une quatrième langue, disait le réalisateur dans une interview, qui est le silence. Et tous ces gens parlent des langues différentes et changent de langue selon là où ils sont. Ce qui pourrait être une façon de définir la duplicité.
Oui. Je crois effectivement l'utilisation des quatre langues traduit un petit peu...
Comment comprendre la langue de l'autre
Non, c'est un film très intéressant.
C'est un film très intéressant. Un peu foutraque. Un peu foutraque, mal construit.
Oui.
La diégèse n'est pas très très claire. Mais ça fait partie du charme du film.
Il y a beaucoup de choses sympas, mais...
Il y a des fois, on ne sait pas très bien où on est, quand Félix se déguise en juif hassidique avec... Bon, au début, moi, je n'ai pas reconnu, c'est qui, lui? Voilà.
Bon. Voilà, je crois que c'est également un film qu'il faut recommander, quand même. Parce que
il
faut le voir. Bon, maintenant, on va passer à notre coup de cœur. On va commencer par... Vincent n'a pas d'écailles. C'est un premier long métrage de Thomas Salvador, auteur qui avait été repéré par ses courts métrages, étant donné d'attendre beaucoup. Et puis, moi, je dois dire qu'après tous les films dont on vient de parler, qui sont quand même une réalité assez lourde, Vincent n'a pas d'écailles est une film qui fait du bien. Alors, cette espèce de légèreté, son côté bulle. Alors, qui est Vincent? C'est un grand type, mince, silencieux, taciturne, une sorte d'Uluberlu à la Buster Keaton. Mais surtout, Vincent a un don. En temps normal, à sec, si je puis dire, il est comme tout le monde, comme vous et moi, mais qu'il soit mouillé, Et cela peut arriver quand il se baigne, quand il marche sous la pluie, ou bien simplement quand il se verse un seau d'eau sur la tête. Et le voilà doté d'une force surhumaine qui lui permet de jaillir comme un marsouin, de bondir comme un kangourou surdopé, ou de défoncer des murs à la main. Mais avec, comme tous les contes, dans tous les contes, une limite. Quand Vincent est sec, sa force s'évanouit. Et ça sèche très vite. Et de plus, ce don, bien sûr, pas question qu'il soit connu de ceux qui l'entourent. Tu ne diras rien, recommande-t-il à sa petite copine Lucie. Enfin, autant le dire tout de suite, les choses vont commencer à se gâter et aller vers un dénouement inéluctable, alors que, pour venir à son ami Driss, pris dans une bagarre, il écrase une voiture sous une bétonnière. Bon, moi, j'ai trouvé que ce film était un peu comme un coup de vent frais, teinté d'un parfum de nostalgie. On pense à la nouvelle vague, il y a un peu de la spontanéité, de la fraîcheur, moi, que j'avais apprécié dans Adieu Philippines de Jacques Rosier. Il y a quelque chose de l'Antoine Doinel, des 400 coups, dans le Vincent, qui, sur la fin du film, dévale les dunes pour se précipiter vers la mer. Donc voilà, moi je le recommande sans hésiter, avec quand même un petit bémol, je tiens à prévenir, c'est souvent la rançon de la légèreté, il y a un certain manque de rythme. Voilà, donc allez voir ça, François, tu veux nous parler de quelque chose de tout à fait différent.
Totalement différent, c'est un film algérien de Karim Moussaoui qui a 39 ans, le film s'appelle Les Jours d'avant, c'est un premier film, un film singulier à découvrir et à faire découvrir. Singulier pour des tas de raisons, d'abord par son format 47 minutes. On ne voit pas le temps passer, mais on regrette que la salle se rallume aussi vite. Le film est singulier aussi par l'apparente simplicité de cette mise en image et aussi par l'habileté du montage. Le film a pour toile de fond l'Algérie des années 90, très exactement 1994. La guerre civile sévit depuis 3 ans. Le Front islamique du salut terrorise la population. À cette époque, Moussaoui avait 18 ans, comme les lycéens de terminale qu'il filme ici dans une banlieue d'Alger. Il met en scène un jeune garçon, Djaber, qui a remarqué une jeune fille, Yamina. Yamina le fait rêver. Ils sont élèves de la même classe, voisins de quartier, mais les circonstances, la société, les familles, tout se pose à la moindre relation entre garçons et filles. Djaber et un copain entendent alors parler d'une fête qui devrait avoir lieu dans l'appartement d'un étudiant. Et il y aura des filles, bien sûr. Cette fête devient alors une vraie obsession, comment s'insinuer dans l'appartement. Ils vont y parvenir. La séquence de la fête est magnifique, inattendue et triste. Elle montre ce que deviennent les rêves dans la vie de ces jeunes Algériens. L'intelligence du montage fait que nous allons découvrir les événements en deux temps. D'abord tels qu'ils ont été vécus par le jeune homme, puis par la jeune fille, au même moment, au même endroit. Une voix off accompagne le récit de Djaber, comme celui de Yamina. Et le plus beau peut-être, c'est une voix d'opéra, déchirante, bouleversante, et totalement incongrue, qui s'élève aérienne dans ce décor de banlieue boueuse et triste. C'est l'aria d'un opéra de Handel, Alcina. Et c'est très beau, cette déploration, cette lamentation qui se penche sur la vie de ces jeunes gens, pris dans une histoire brutale, absurde et sans espoir. Moussaoui est à suivre, avec son talent à mettre en image le vide, la menace, le désarroi, les rêves. Et on attend avec impatience son premier long métrage. Précipitez-vous.
Merci, tu nous as donné très envie de voir ce film. Ben je crois qu'on va passer à un film tout à fait différent avec le prix à payer que Jean a beaucoup aimé, je crois.
Oui, on va revenir dans du lourd, là, hein. Parce que le prix à payer, c'est un documentaire réalisé par Harold Crox, aidé par une certaine Brigitte Alepin, une fiscaliste canadienne, auteure du livre « La crise fiscale qui vient ». Ce documentaire passionnant apparaît comme un tract destiné à mobiliser les démocrates et les hommes de bon sens face à l'émergence d'une nouvelle aristocratie richissime qui utilise à chaque instant les moyens les plus légaux pour garder le contrôle d'un argent invisible mais réel au détriment des quelques 6 milliards de terriens. Sans être original dans la forme, il est explosif dans le contenu, car il donne la parole à des spécialistes reconnus et à d'anciens responsables dans le domaine de l'évasion fiscale en vue de trouver une issue positive à ce fléau. Alternant effets spéciaux, images d'archives et témoignages d'experts ayant travaillé dans des banques d'affaires ou des cabinets de consultants, Harold Crox explique le système de finances offshore. Comment depuis 50 ans, les banquiers londoniens ont, en utilisant des failles de la loi, créé des paradis fiscaux dans les anciennes colonies de l'Empire britannique. Comment les grandes multinationales, les géants du numérique, Amazon, Google, Apple, recourent à une armée d'avocats et de fiscalistes pour réduire leurs impôts à presque rien. Ces pratiques sont légales, se défendent les accusés. On ne vous accuse pas d'être illégal, on vous accuse d'être immoral, réplique la parlementaire britannique Margaret Hodge, présidente d'une commission d'enquête. Et voilà qui résume bien le propos.
Oui, merci. Bon, je crois que ça nous donne vraiment une leçon de morale économique. Et c'est peut-être une autre morale dont tu vas parler, Marie-Jeanne, plus humaine.
Oui, dans le film Spartacus et Cassandra. Alors, ce long métrage est le premier d'un réalisateur, jeune réalisateur de 31 ans, Yohannis Nugay. Et depuis 3 ans, il se balade dans caméra à l'épaule dans un campement rom jusqu'au jour où un petit garçon qui esquisse un rap dans la rue s'impose à lui, c'est Spartacus. Et ce film va nous entraîner dans la vie de ce petit garçon de 13 ans et de sa sœur Cassandra qui a 11 ans. Alors leur vie, on devrait dire plutôt leur survie. Leurs parents vivent dans la rue et eux sont pris en charge par une trapéziste, Camille, qui est venue planter son chapiteau en banlieue parisienne, là où vivent des familles originaires de Roumanie. Alors ce film vraiment est un petit bijou, car il nous montre un milieu sur lequel tant de préjugés et de préventions sont véhiculés, et sans jamais d'ailleurs éluder la réalité, et sans jamais la juger non plus. Une réalité terrible, le père des enfants est un ivrogne, violent avec sa femme, exploiteur, qui ne pense qu'à lui, et qui veut quitter la France, ce pays de merde, dit-il, pour emmener sa famille en Espagne, qui est, selon lui, un Eldorado. La mère, doucement folle, vend du muguet fané dans les rues, s'accroche à ses enfants et veut retourner en Roumanie. Et au milieu, Spartacus et Cassandra, qui ont oublié d'être des enfants, qui sont plus raisonnables d'ailleurs que leurs propres parents, écartelés entre le confort et le bonheur que leur offre Camille, et la conscience que leurs parents sont à la rue, qui sont tiraillés entre ses parents, malgré tout aimants mais improbables, et la justice qui veut les placer en famille d'accueil. Alors ce film a une force peu commune, il est une source d'intenses émotions et vraiment ne peut laisser le spectateur indifférent. Ces deux gamins sont bouleversants de vérité et de tendresse, on les suit dans leur colère, leurs doutes, leur joie, notamment lorsqu'ils découvrent la nature à la campagne avec Camille et on les voit redevenir les enfants qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être. Mais ils grandiront d'ailleurs, comme le dit si bien Cassandra à la fin du film, lorsque leurs parents cesseront d'être des enfants. Vraiment un film tendre et émouvant à voir absolument.
Ça donne envie.
Ça
donne envie d'aller le voir.
Je crois qu'il est venu maintenant le temps de nous quitter. Merci à Françoise, à Marie-Jeanne et à Jean qui ont animé cette émission. Merci Arnaud qui en a assuré la réalisation technique et merci à tous ceux qui l'ont écouté. Et que nous invitons à nous rejoindre dans notre prochaine émission qui aura lieu le mardi 24 mars de 13h15 à 14h. À bientôt.